Les colloques du Collège de France.
Je propose maintenant à Philippe Cucus de venir prendre la parole. Il représente en effet cette génération d'héritiers que nous voulions absolument avoir ici. Et après avoir publié Nerval Fantaisiste en 2019, thèse dirigée par Bertrand Marchal, un autre des élèves d'Yves Bonnefoy, il collabore maintenant à une nouvelle édition des œuvres complètes de Nerval, en cours de parution au classique Garnier, sous la direction de Jean-Nicolas Illus. Il est chercheur associé au groupe Baudelaire de l'ITEM et au SELF de Paris-Sorbonne. Donc, je lui donne la parole. Le sujet qu'il a choisi prolonge ses réflexions autour de Nerval, mais aussi autour de Bonnefoy. Bonnefoy face à Nerval, de la critique à l'auto-analyse avec point d'interrogation.
Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Alors, je commencerai cette réflexion sur la dimension critique de l'œuvre de Bonnefoy en citant une remarque de John Jackson au sujet de l'arrière-pays. John Jackson remarquait à la sortie de l'ouvrage combien, je cite, « il était difficile d'en parler, tant ce texte intègre à son récit une réflexion constante qui en constitue simultanément le meilleur commentaire. » Cette manière d'intégrer à sa propre œuvre une dimension critique qui en paraîtrait le meilleur commentaire est sans doute l'un des traits les plus caractéristiques de l'œuvre d'Yves Bonnefoy, mais aussi l'une de ses difficultés les plus redoutables. S'il est tout à fait naturel de chercher dans l'œuvre critique d'un auteur, en particulier d'un auteur réputé difficile, des points d'accroche permettant de nous familiariser avec elle, le travail de l'herméneute ne saurait se limiter néanmoins à dupliquer ce premier discours critique au risque de manquer son but. C'est d'autant plus vrai dans le cas d'une œuvre recelant d'aussi nombreuses zones d'ombre, inquiète de n'avoir rien résolu, comme Bonnefoy le confessait lui-même dans une postface ajoutée en 2004 à l'arrière-pays. Œuvre, par ailleurs, où il serait arbitraire de chercher à distinguer la critique de la poésie, tant elles sont, dès l'origine, intimement liées. Et c'est un des mérites de l'édition de la Pléiade que d'avoir affronté cette difficulté en intégrant aux œuvres poétiques les essais critiques qui en sont les pendants, et en soulignant le rapport particulier que Bonnefoy entretint avec la critique. En sa qualité de poète-penseur, héritier d'une tradition ancrée en France au cours du XIXe siècle, mais aussi en sa qualité d'universitaire, se tenant au courant de l'actualité critique, y compris celle touchant sa propre œuvre. Je souhaiterais modestement contribuer à interroger la complexité du geste critique bonnefoydien en cherchant à mettre en lumière quelques-unes des zones d'ombre que je viens d'évoquer, à travers la lecture importante et toute personnelle qu'il fit de l'œuvre de Nerval. Mon propos ne consistera pas directement à mettre en valeur la nouveauté de l'apport conceptuel de l'œuvre critique de Bonnefoy. Je vous renvoie sur ce point à la synthèse qui consacra Patrick Ney dans la revue Littérature en 2008. Je ne procéderai pas davantage à une étude comparée des poétiques de Nerval et de Bonnefoy, à laquelle Daniel Lançon et Corinne Bell, entre autres, se sont brillamment essayés dans des articles tout récemment parus dans la revue Nerval. Je tenterai plutôt de mettre en lumière ce que cette lecture, exemplaire de la méthode critique du poète, est susceptible de nous dire des processus travaillant son œuvre, et de la manière dont l'œuvre de Nerval lui ouvrit des voies nouvelles. La lecture que Bonnefoy donna de Nerval est particulièrement propice à pareille réflexion, me semble-t-il. L'œuvre de Nerval, pour avoir accompagné Bonnefoy tout au long de sa vie, de sa découverte à l'âge de 15 ans dans une anthologie de René Laloux, à une ultime mention dans l'Écharpe rouge en 2016, permet de prendre en compte l'ensemble de son œuvre, et de, plus particulièrement de son œuvre critique. Aux trois essais majeurs que Bonnefoy consacra à Nerval, tout ou partie le plus directement, l'acte est le lieu de la poésie, la poétique de Nerval, et Nerval seul dans Paris, paru respectivement en 1959, 1987 et 2001, s'ajoutent des références cruciales dans des textes capitaux comme l'arrière-pays et l'écharpe rouge. Si Bonnefoy s'exprima moins au sujet de Nerval qu'au sujet de Baudelaire ou de Rimbaud, par exemple, le poète des Chimères aurait été, selon lui, je cite, une de ses plus anciennes rencontres et décisives. Et son œuvre aurait été, par certains de ses aspects, je cite toujours Bonnefoy, plus proche qu'aucune autre de ce qui le touchait et le troublait. Nerval aurait été pour Bonnefoy rien moins qu'une incarnation de la poésie. Et là encore, c'est une citation de Bonnefoy. L'intime singularité du rapport que Bonnefoy noua avec Nerval explique le fait qu'il ne nomme pas dans l'hommage qu'il lui rendit à la fin de l'acte et le lieu de la poésie, comme pour lui conférer une sorte d'évidence supplémentaire, dira-t-il. À cela s'ajoute l'originalité de l'apport critique bonnefidien aux études nervaliennes. Bonnefoy accompagna le renouveau de ses études, qui, à travers la parution d'une nouvelle édition des œuvres complètes de Nerval dans la bibliothèque de la Pléiade, de 1984 à 1993, permit d'enfin pouvoir lire un texte fiable, émondé des maladresses philologiques et des excès interprétatifs qu'il avait défigurés. En s'inscrivant dans le sillage de l'éloge que Baudelaire fit de son aîné, soutenant paradoxalement que Nerval fut toujours lucide, Bonnefoy mit l'accent sur la dimension réflexive de l'écriture nervalienne. Ce faisant, il participait à la réévaluation critique d'une œuvre qu'on eut tendance à tenir pour mineure. Cette réévaluation l'amena à redessiner la carte de l'histoire littéraire du XIXe siècle, en donnant à Nerval, aux côtés de Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé, et à la faveur de l'occultation de figures importantes, comme Hugo par exemple, une place dans ce qu'il nomma un quadrangle. Quadrangle qui aurait posé, au cours du XIXe siècle, la problématique de la poésie et qui délimita le cadre de sa réflexion. Toutefois, si Bonnefoy a proposé une relecture novatrice de Nerval, et avant tout de l'un de ses chefs-d'œuvre, Sylvie, c'est à travers une méthode critique singulière, mettant au jour des parties critiques riches de sens. Comme Patrick Ney l'a souligné, la pensée bonnefidienne eut vocation à libérer la critique littéraire d'apories auxquelles certains excès du structuralisme l'avaient condamné. Plus essentiellement, Bonnefoy entendait défendre la poésie contre des soupçons et des accusations que le structuralisme avait contribué à faire peser sur elle. Bien que ces prises de position se lisent de fait comme de fervents plaidoyers en faveur de la poésie et remettent en question les maigres perspectives qu'ont pu lui assigner, à savoir de n'être plus qu'un jeu ayant le langage à la fois pour objet et pour finalité, ce qui eut pour conséquence sa marginalisation dans tous les domaines de la vie littéraire. Réaffirmer la poésie revient pour Bonnefoy, comme il le dit, à renouveler son idée, à la redéfinir selon des critères non plus linguistiques ou esthétiques même, mais selon une ambition philosophique et plus précisément éthique. Sortir la poésie de la prison du langage, de l'autotélisme du signe et de l'art, revient à lui donner pour horizon une exigence de vérité, de sorte que la quête poétique se mue en quête moins artistique qu'existentielle. Cette conversion, en ouvrant le signe poétique sur son dehors, l'existence du poète comme la nôtre, dote la poésie d'une responsabilité et d'une gravité nouvelles, engageant désormais le destin même de notre être au monde. Cette redéfinition radicale entraîne nécessairement une redéfinition de la critique, entendue désormais, selon Bonnefoy, comme relation faite de questionnements explicites et de responsabilités assumées. La verticalité et la symétrie de la posture critique traditionnelle cèdent la place à un dialogue, à une solidarité même, où le critique se laisse guider, comme dit Bonnefoy, par une parole qu'il s'agit d'écouter véritablement. Refondée sur un rapport nouveau entre l'œuvre et la vie, Le geste critique est saisi dans un double mouvement de particularisation et d'essentialisation, dont témoigne la démarche suivie dans la poétique de Nerval. Si Bonnefoy, il médite la leçon de Nerval, dans le but d'approfondir notre compréhension de l'essence même du poétique, c'est en commençant par un témoignage qu'il dit de nature délibérément personnelle, ancrant la parole critique dans un authentique rapport de réciprocité. C'est en quoi la critique bonnefoydienne est par nature poétique, et qu'elle ambitionne de tirer des œuvres qu'elle aborde, en essayant de les comprendre de l'intérieur, une plus haute intelligence de la poésie. C'est pourquoi aussi, avant que d'aborder l'œuvre de Nerval dans les essais qui lui consacrent, Bonnefoy est soucieux de contextualiser cette œuvre dans un cadre qui permettra de lui donner tout son sens, en brossant, comme il l'avait fait dans Rome 1630 par exemple, une vaste fresque historique destinée à faire revivre le paysage intellectuel dans lequel cette œuvre s'inscrit. Cette mise en scène d'un moment de l'histoire des idées entend suggérer ce que notre modernité doit à l'époque romantique, et plus précisément, combien l'expérience de l'exil ontologique, qui serait selon Bonnefoy caractéristique de notre expérience du monde, s'enracine dans la crise qui partagea douloureusement la conscience des poètes du XIXe siècle entre une expérience du néant et le souvenir d'une plénitude perdue. Bonnefoy nous invite à nous placer dans la poétique de Nerval, comme dans Nerval seul dans Paris, dans la situation d'un poète né au lendemain du cataclysme révolutionnaire, qui trouve dans l'idée de poésie la seule voie permettant d'étancher sa soif d'absolu. L'indéfectible foi que notre auteur ne cessa d'exprimer dans le pouvoir de la poésie est fille de ce moment romantique. Une fois ce cadre posé, Bonnefoy fait apparaître la figure qui incarnera le problème qui l'occupe. Nerval, en l'occurrence, à travers une approche où l'œuvre et la vie sont inextricablement liées, où interroger une œuvre revient à questionner un destin. La méthode critique bonnefoydienne associe étroitement approche psychocritique et approche poétique, mais en effaçant l'anecdotique et le contingent de la vie dans le but de cerner une nature psychique, comme il le dit, déterminant une perception poétique du monde. Il s'agit pour lui non d'écrire la biographie d'un auteur, mais celle d'une œuvre, comme le sous-titre de son monumental Giacometti le précise. La lecture que Bonnefoy donne de Sylvie suivra la voie de cette psychologie, ou plutôt de cette phénoménologie poétique. Elle s'appuie sur l'hypothèse que le détour par la fiction que Nerval fait dans sa nouvelle se révélerait, dit Bonnefoy, bien plus véridique qu'une relation autobiographique et qu'elle permettrait d'exprimer, je cite encore Bonnefoy, la quintessence d'un moment décisif du rapport de Nerval à lui-même. On perçoit combien l'effort par lequel Bonnefoy essaie de retracer comme de l'intérieur la vie poétique de Nerval, pour comprendre non seulement sa pensée, mais nombre de choses profondes de l'expérience religieuse ou de l'inconscient, s'inscrit dans un dispositif implicitement spéculaire, où le critique ménage des rencontres avec sa propre œuvre poétique, de sorte que l'œuvre nervalienne permet certes de penser l'expérience de l'homme moderne, mais aussi se révèle un miroir à partir duquel Bonnefoy essaie de relire et de comprendre sa propre œuvre au fil d'un processus d'intériorisation et peut-être même d'identification. À ce titre, les choix de corpus que Bonnefoy opère au sein de l'œuvre de Nerval sont particulièrement révélateurs. En effet, si Bonnefoy connaît manifestement bien l'œuvre nervalienne, il se concentre essentiellement dans sa lecture sur Sylvie et Aurélia, deux des maîtres livres, dit-il, de la philosophia perennis de la création poétique. Et parmi ces deux récits, il ne cache pas sa prédilection pour le premier, qu'il juge, je cite, « un de ces textes inépuisables qui valent, par leur gouffre aux échos sans nombre, bien des livres jugés sacrés ». Force est de constater que Sylvie ne pouvait que toucher Bonnefoy, tant la nouvelle paraît répondre à ses propres orientations, tant elle exprimerait la réalité, comme dit Bonnefoy, la plus pleinement et simplement naturelle, dont émanerait, selon lui, une bonne part de son attrait insondable. Tant elle exprime, enfin, cet amour, comme dit Bonnefoy, du lieu où l'on vit, où l'on meurt, parmi des êtres qu'on affectionne. Idéal bonnefidien s'il en est. De fait, le poète fut particulièrement sensible aux paysages valoisiens par lesquels Sylvie se souvient d'un monde pastoral perdu. Paysage dont on sait l'importance dans l'imaginaire de Bonnefoy. La nouvelle exprimerait l'espérance la plus profonde, celle qui a hanté l'Occident au seuil de l'âge de fer, dit Bonnefoy, et manifesterait combien Nerval fut le seul, avant Rimbaud, à garder mémoire de ce mystère qui serait l'expérience du monde d'avant le langage, tel que l'enfant et, dans une moindre mesure, le paysan pourrait faire. L'œuvre de Nerval manifesterait ainsi, dans ses plus beaux moments, ce que la poésie devrait être. Ce qui frappe dans cette lecture, c'est la manière dont la nouvelle devient une allégorie de la quête poétique, où la structuration de l'espace entre deux pôles dialectiquement opposés figure ce déchirement entre vœux d'incarnation et rêve d'excarnation que tout poète, selon Bonnefoy, expérimenterait plus ou moins consciemment et qui serait peut-être à la racine de sa vocation. L'opposition entre Paris et le Valois dans Sylvie recouperait ainsi celle entre Tours et les causes du Quercy, qui hantent l'arrière-pays, le lieu de Herbe ou encore l'écharpe rouge. Pour le dire autrement, l'auteur de l'arrière-pays reconnaît dans Sylvie une expérience du monde douloureusement divisée que l'opposition entre les personnages de Sylvie et d'Adrienne figurerait. Je cite une analyse de Bonnefoy sur ce sujet. Là où Sylvie représente l'expérience de l'immédiat, du plein du monde, de l'un immanent ou tout ce qui est, immanent à tout ce qui est, Adrienne est la même visée de l'un, mais troublée désormais par le travail des mots sur le monde, et comme éloignée de ce fait, comme vouée à n'être que transcendance, comme réduite ici à n'être plus qu'une image qui s'efface aussi vite qu'elle prend forme. Adrienne symboliserait une hantise de l'ailleurs que Bonnefoy a reconnue sienne, partageant avec Nerval une même fascination pour ce qu'il nomme le gnosticisme, que Sylvie évoque en son premier chapitre et qui fait supposer à Bonnefoy que Nerval, je cite Bonnefoy, aurait certainement eu bonheur à être un de ses premiers archéologues de Pompéi, de l'Égypte, qui découvrait dans catacombes ou hypogées des images à demi effacées sur les parois, dans les ombres. Le propos est capital, car il révèle combien Bonnefoy prête à Nerval un rêve qui a été le sien, qu'il évoque dans l'arrière-pays, à travers les fantasmes qu'éveilla en lui la lecture des Sables Rouges, et que l'on retrouve dans de nombreux récits en rêve, au premier rang desquels les découvertes de Prague. Plus essentiellement encore, le cheminement du protagoniste de Sylvie, tel qu'il est décrit par Bonnefoy, partage les grandes lignes de la progression inquiète de l'arrière-pays, alternant moments de plénitude et de désarroi, où chaque sursaut d'espérance vient à être remis en doute. Cette trame fortement dialectisée, caractéristique de la pensée bonnefidienne, que l'on retrouve communément dans les textes où le poète revient sur sa propre pratique, est particulièrement prégnante dans la poétique de Nerval et dans Nerval seul dans Paris. Cette remarquable convergence entre le texte bonnefidien et le texte nervalien, tel qu'il est compris par Bonnefoy, pose la question de la particularité de son rapport à Nerval, suggéré dans la place que celui-ci occupe dans le quadrangle qu'il forme avec Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé. Dans l'acte et le lieu de la poésie, Nerval était le seul, je l'ai dit, à n'être pas nommé et à être désigné allusivement. Je pense au poète du plus limpide espoir et de la plus vive douleur, écrivait Bonnefoy. Bonnefoy expliquera cela par le fait qu'il ne se serait pas senti encore prêt pour aborder de front une œuvre qu'il avait pourtant lue dans ses années de lycée et qui lui était plus intime qu'une autre. Le fait qu'il n'ait abordé que tardivement Nerval dans son œuvre critique était en quelque sorte inscrit dans la place que le poète des chimères occupe dans ce quadrangle. En effet, À chaque fois que Bonnefoy évoque ce quadrangle, c'est sous la forme d'un cheminement remontant en spirale la chronologie du XIXe siècle. Commençant par Mallarmé, poursuivant par Baudelaire, avant de revenir à Rimbaud, et enfin pour pousser plus en amont et finir par Nerval. En précisant dans un essai postérieur que ce quadrangle est une sorte de programme, Bonnefoy suggère combien est décisive l'étape nervalienne dans sa réflexion. Autrement dit, s'il n'explicite que tardivement son rapport à Nerval, c'est que l'influence de sa lecture ne pouvait lui apparaître qu'au terme, peut-être, d'un long travail de décantation intérieure. C'est que ce qui le lie à Nerval est si profond qu'il accompagne la maturation de son œuvre, et qu'il n'a pu commencer à l'expliciter qu'au moment où il parvenait à une conscience nouvelle de celle-ci. Tout se passe comme si la référence à Nerval accompagnait Bonnefoy au moment où celui-ci, préoccupé, comme il le dit, par diverses poussées de la matière inconsciente, entamait un vaste mouvement de retour sur soi destiné à clarifier ce qui le trouble. Rappelons-nous qu'il soulignait l'importance qu'eut pour lui la lecture de Nerval précisément en raison du trouble qu'elle éveillait en lui. D'un trouble qu'ils pouvaient tous deux avoir eu en partage et dont l'œuvre de Nerval permit à Bonnefoy, je crois, de prendre progressivement conscience. Partisan d'une approche psychocritique de l'œuvre de Nerval, particulièrement féconde aux alentours de 1980, Bonnefoy supposait, je cite, « Chez peu d'auteurs, la chose inconsciente est si fréquemment affleurante et sa parole si claire, comme si Nerval avait pressenti que le sens de la poésie était en jeu dans son œuvre » et voulait donc passionnément se comprendre. Nerval fut le premier de ces psychographes, et la découverte qu'il fit est d'une grande portée. Fort de cette hypothèse, Bonnefoy diagnostique au poète des Chimères ce qu'il appelle une maladie du destin, causée par le fait qu'il n'aurait pas connu sa mère. Événement, explique-t-il, à une époque où les hypothèses psychanalytiques prenaient une importance nouvelle dans son œuvre, qui ne peut que décider d'une vie, dit-il, et qui l'aurait laissé dans cet état de manque ontologique caractéristique de notre expérience du monde. Mais si la dimension biographique est si présente dans la lecture que Bonnefoy fait de Nerval, c'est qu'elle se double d'implications autobiographiques. Bonnefoy le suggérera dans le premier essai qu'il lui consacrera spécifiquement, comme on l'a vu, tout comme il le soulignera à nouveau dans l'écharpe rouge, en laissant entendre que sa précoce lecture des Filles du Feu se serait inconsciemment amalgamée à son souvenir des Sables Rouges, ce dont l'arrière-pays témoigne. Tout porte à croire que l'œuvre de Nerval, et Sylvie en particulier, fut un modèle dans l'effort d'auto-analyse qui anima l'écriture bonnefidienne, de manière toujours plus explicite. Tout se passe même comme si Bonnefoy s'était pour ainsi dire installé dans le récit des Nervaliens pour mener à bien cette entreprise au fil d'un dialogue alternant identification et mise à distance. Alors quelle est donc cette découverte d'une grande portée que Nerval aurait faite en essayant de se comprendre et à laquelle Bonnefoy se réfère? Il s'agit de ce que Bonnefoy appelle le drame de l'écriture, que le poète des Chimères aurait mis au jour et dont il aurait aider Bonnefoy à prendre conscience. Drame dont l'approfondissement est au centre de sa pensée critique. Ce drame touche au rapport qu'entretiennent l'écriture et la vie, rapport de concurrence plutôt que de complémentarité selon Bonnefoy, puisque l'écriture, plutôt que de transcender la visée toujours partielle, comme il le dit, des mots, afin de nous réenraciner dans une expérience de l'immédiat, et par là nous sauver de notre condition d'exilé, accroît cette dernière. La critique du langage à laquelle Bonnefoy procède ouvre à une ère de soupçon en poésie et interroge, je cite, « ce besoin suspect d'en passer par les mots au lieu simplement de vivre ». Pourquoi, en effet, s'obstiner à passer par le langage pour qui est épris de l'un ? Et Bonnefoy d'avertir, je le cite encore, « qui est vraiment du monde n'écrira pas ». Au moins de cette façon, qui ne dit le monde si ardemment que parce que le monde lui fait défaut. Nerval avait effectivement une conscience tragique de cette désunion entre ce qui désire et ce qui est, même s'il ne pouvait évidemment la formuler avec les termes de Bonnefoy. Le portrait que Nerval fit de Restif de la Bretonne dans Les Illuminés en témoigne, notamment lorsqu'il y fait amèrement s'exclamer un écrivain ayant trahi la vie au profit de l'écriture en ces termes. « Sais-tu ce que nous faisons, nous autres, de nos amours ? Nous en faisons des livres pour gagner notre vie. » Le déchirement intérieur qui résulte de l'écriture ne va pas sans un sentiment de culpabilité diffus, possible chez Nerval, comme on vient de le voir, mais aussi particulièrement manifeste chez Bonnefoy. L'écharpe rouge est sur ce point des plus éloquentes, tant une part d'autocensure s'y mêle au désir d'écrire. L'œuvre de Nerval permet donc à Bonnefoy d'interroger cette conscience tragique de l'écriture et de penser les contradictions entourant sa propre quête poétique. Contradictions dont cette quête procède en grande partie. Mais si l'œuvre de Nerval aide Bonnefoy à comprendre ce que pourrait être un échec de l'écriture, c'est au risque d'un figement de la personne et de l'œuvre du poète des Chimères, mettant au jour des divergences nombreuses entre les deux auteurs, sinon une incompréhension par endroits plus profonde encore. Condamné à ne pouvoir éprouver pour quoi que ce soit de ce monde, dit Bonnefoy de Nerval, cet attachement absolu, absolument non imaginatif, qui seul donnerait lieu à une expérience de l'ici et du maintenant, principalement en raison de ce qui perturba son rapport au monde dans la petite enfance, Nerval ne pouvait qu'échouer aux yeux de Bonnefoy. C'est pourquoi celui-ci lit le suicide de Nerval avec la prise de conscience de ce drame de l'écriture qu'il aurait fait dans Sylvie. Aurélia, que Bonnefoy ne pouvait en partie que méconnaître, puisqu'il l'abordait à travers une grille de lecture psychocritique, que Nerval cherchait précisément à mettre en doute, ne fera à ses yeux qu'amplifier de manière irrémédiable ce drame. Et Bonnefoy de conclure, je cite, « Le délire qui s'y déclare va se faire tout aussi bien par aggravation rapide la lucidité d'un esprit accédant à sa vérité. » Voilà qui est singulier, mais qui éclaire le fait que Bonnefoy ait qualifié Nerval de poète du plus limpide espoir et de la plus vive douleur, avant de paradoxalement définir sa mélancolie dans l'acte et le lieu de la poésie comme, je cite, « union de la lucidité de l'espoir ». C'est que le poète tire de sa lecture de Nerval la compréhension d'une aporie, mais aussi une assurance, comme il le dit, une voie de salut qui serait une méthode. Bonnefoy a toujours placé la poésie sous le signe du combat, de la lutte. La décision poétique s'est toujours formulée chez lui dans une tension entre une affirmation et un acte de refus. Refus, par exemple, du platonisme, du christianisme ou encore du surréalisme. Écrire pour Bonnefoy, c'est affronter une contradiction au cœur de sa quête poétique. Contradiction peut-être constitutive, comme je le suggérais, de sa vocation même, que l'œuvre essaiera obstinément, sinon de résoudre, du moins de comprendre. C'est pourquoi le poète était nécessairement appelé à emprunter la voie de l'auto-analyse, en reconnaissant que le combat était avant tout intérieur, assimilant la poésie à une psychomachie, à une incessante bataille, comme il le dit, menée sous la vigilance d'une anxieuse lucidité, contre une constante hantise, continue-t-il, qui irrépressiblement reprend vie. Bonnefoy ne pouvait être que sensible au fait que Nerval, dans Sylvie, ait attribué à l'écriture la tâche de fixer, comme il le dit lui-même, les chimères qui charment et égarent au matin de la vie afin de reprendre pied sur le réel. Cette voie est d'autant plus héroïque que l'espoir qui l'anime peut paraître fou, dès lors qu'il s'agit de faire naître le jour du fond de la nuit, comme le dit Bonnefoy. Dès lors qu'il s'agit de faire de l'instrument de notre aliénation, le langage, celui de notre libération. Comme si toute vocation poétique comportait une part de folie, et comme si, au lieu de s'abandonner, le poète devait se résoudre, ainsi que Bonnefoy le dit de Nerval, à descendre dans cette nuit où triomphe l'autre, l'autre évidemment avec une majuscule, pour comprendre ce qui s'y passe et tenter là de se délivrer. Bonnefoy a fait sien ce programme d'une lucidité nouvelle. Aussi est-ce au contact de Nerval que son œuvre trouve les éléments d'une poétique rendue nécessaire par sa préoccupation accrue de la chose inconsciente. Les récits en rêve seront sans doute l'instrument majeur de cette poétique nouvelle, apparue progressivement dans l'œuvre et en gestation au moment de l'écriture de l'arrière-pays, à l'invention de laquelle la lecture de Nerval pourrait avoir contribué. C'est tout particulièrement dans les récits en rêve où le travail de vérité se poursuit sous couvert de la rêverie, comme le dit Bonnefoy, que le péril peut se faire voie de salut, justement. Ce que le poète dira de Nerval nous en assure, tant le propos fait écho à la manière qu'il avait de présenter ses propres récits en rêve. Je cite Bonnefoy un peu plus longuement ici, « Car même si l'unité nous est refusée, parce que d'emblée nous l'aliénons dans nos rêves, nous pouvons au moins, comme fait Nerval, à la fin, observer ceci, en découvrir la nature et donc faire apparaître en nous, à nos yeux et à ceux des autres, davantage d'universel. Ce qui peut aider le groupe social à mieux percevoir ce qu'est la vie, alors même que la pensée notionnelle en a perdu ou en oblitère l'expérience première d'unité. » De fait, dans ses récits en rêve, et je m'arrêterai ici, Bonnefoy, converti comme Nerval à la prose, se porte à l'écoute de cette seconde vie qu'il explore et interroge à la suite de l'auteur d'Aurélia, non pour y succomber, mais au contraire pour s'efforcer, à la faveur du dédoublement permis par l'auto-analyse, de la comprendre et d'en apaiser, à défaut de les vaincre, les pousser, les plus menaçantes. Je vous remercie.
Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.